Alors Guillaume, bonjour. Donc
Bonjour Pierre.
nous sommes ensemble pour parler d'Échiquier Arty. Tu es gérant aux côtés d'Olivier de Béranger et d'Uriel Saragusti, donc de notre fonds diversifié, aujourd'hui à peu près 1 milliard d'euros d'actifs sous gestion. Et l'objectif donc de ce moment qu'on va passer ensemble, de ces demi-heures, en fait, c'est bon, bien sûr revenir un peu, je dirais, sur l'année 2019, et puis surtout que tu nous donnes les moyens de nous projeter sur 2020, bien comprendre quelle est la stratégie qui a été choisie par le fonds dans ce cadre-là. Je rappelle donc que Échiquier Arty est un fonds diversifié, 0,50 actions, avec un budget de volatilité d'environ
3,5 jusqu'à 5%.
jusqu'à 5%, voilà. Donc, quelle a été sa performance en 2019, si je connais la réponse, bien entendu.
Voilà, effectivement, Échiquier Arty a réalisé une performance en 2019 de 9,33% sur la part R, versus un indice qui a réalisé une performance de 8,4%.
Un disque qui est composé comment
Un
alors?
indice qui est composé de 50% du MSCI, pardon, du 25% du MSCI Net Return, de 25% d'Eonia et de 50% sur l'iBoxx 3-5 ans. Alors, effectivement, le gros point de retour d'Échiquier Arty dans la performance, ça a été effectivement via les actions principalement, parce que si on décompose la performance, on a une décomposition de l'ordre de 2/3 qui provient des actions et 1/3 qui provient des obligations.
Ça, c'est le bilan de l'année 2019.
Bilan de l'année
Est-ce
2019.
que c'est le bilan de chaque année, finalement?
Malheureusement, non. Effectivement, 2019 est une année qui a été énormément drivée par les actions et principalement les valeurs de croissance qui ont extrêmement bien tiré leur épingle du jeu. Au premier rang desquelles, on voit des très grandes valeurs de bonne qualité comme ASML, Nestlé ou encore les grands titres de la pharmacie qui ont effectivement fait un grand retour en termes de performance
On
au cours
va y
de l'année.
revenir, mais juste peut-être pour repréciser les choses, ça me semble important. Arty, c'est un fonds qui est composé généralement de trois classes d'actifs.
Alors, c'est plus que trois classes d'actifs, parce qu'on a coutume
Si je
de
résume,
simplifier,
alors voilà, est-ce
effectivement.
que tu peux nous
Alors,
préciser ça?
si on cherche à simplifier, effectivement, on est autour de trois classes d'actifs. Maintenant,
Lesquelles alors? Des actions
des
européennes?
actions européennes, des actions américaines qui ont fait leur apparition dans le fonds depuis le mois de juillet, et puis une poche obligataire qui se scinde en trois morceaux, avec une partie corporate classique qui a toujours été le cœur de moteur d'Échiquier Arty, des obligations corporate européennes,
Dites
dites
d'entreprise, donc.
d'entreprises européennes principalement, des obligations convertibles qui sont remontées en termes de poids dans le portefeuille compte tenu d'une valorisation particulièrement faible en début d'année 2019. Et puis, cette nouvelle classe d'actifs qui fait son apparition depuis maintenant quelques années, mais qui est de plus en plus présente au sein du compartiment obligataire, qui sont aujourd'hui les obligations corporate hybrides.
Bon, on y reviendra. Et des liquidités aussi.
Et des liquidités à hauteur de 5% qui sont globalement le poids moyen constaté dans le portefeuille.
Alors, tu l'as dit, c'est une année en fait qui se caractérise par finalement une bonne performance, hein, bienvenue après une année 2018 qui avait été quand même
Compliqué.
compliquée, hein, on se le rappelle. Une poche action donc qui représente 2/3 de la performance d'Échiquier Arty sur l'année 2019. Quelle a été la performance exactement de cette poche action si on l'autonomise en fait sur le.
Alors, en regardant un peu plus proche, effectivement, on voit que la poche action réalise une performance de l'ordre de 28%. Principalement, comme je disais au tout début, tiré par les valeurs de croissance qui réalisent une performance proche de 45%. Donc là, on est très proche de nos fonds actions maison qui ont réalisé cette performance proche des 40%. Également, la partie value et la partie dividende qui réalisent une performance proche des 18%. Avec des poids un peu plus faibles, puisque nous avions décidé au cours de l'année 2019 d'augmenter la part des valeurs de croissance progressivement pour arriver à plus de 50% de cette poche action à partir du mois de juillet.
Alors justement, la poche action, il y a quelque chose qui a évolué au cours de l'année 2019, hein, sur la façon dont sont sélectionnés les titres de la poche action. Est-ce que tu peux nous le réexpliquer et nous en détail?
Alors effectivement, on a fait une évolution dans notre process de gestion qui est d'aller chercher le meilleur du picking de la financière de l'échiquier. Alors, on a essayé de construire en reprenant les 6 fonds les plus importants de la financière de l'échiquier, en reprenant ces 6 fonds qui sont donc Major, Agenor, Agressor, Value, World Equity Growth et le nouveau venu Échiquier Positive Impact. Le gros intérêt de faire ce meilleur du picking, c'est effectivement d'étaler un petit peu plus les différents moteurs de performance au cours de l'année, puisqu'on n'est pas que croissance, on n'est pas que value, on n'est pas que dividende. C'est également d'avoir la palette la plus large possible en termes de style de gestion. Mais c'est également de reprendre le meilleur de chacun des fonds en ayant une volatilité qui est relativement contenue.
Et donc le résultat, c'est une poche action qui est composée de combien de titres aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, nous sommes environ à 45 titres.
45 titres, et dont certains donc proviennent d'échiquiers majeurs, comme tu l'as dit, d'autres d'échiquiers agresseurs, etc., etc.
Absolument, on a environ entre 5 et 7 valeurs par fonds qui sont repris pour effectivement composer cette poche action tout au long de l'année.
Et donc c'est un changement parce que avant d'avoir mis en place cette nouvelle stratégie de gestion pour la poche action était gérée comme une poche relativement autonome en termes de stock picking.
Alors, c'était plus autonome, c'est-à-dire qu'on reprenait quand même le meilleur et une grosse partie du picking de la financière de l'échiquier, mais nous sommes allés encore plus loin en le systématisant et en intégrant des valeurs internationales qui n'étaient pas effectivement présentes dans le portefeuille avant ce mois de juillet 2019.
D'accord. Pour revenir sur la poche action, juste un détail, je pense, qui me semble important à préciser, pour parler de mobilité, en fait. L'évolution du poids de la poche action au sein de l'actif d'échiquier arctique. Qu'est-ce qu'on a observé sur cette année 2019?
Alors, l'année, effectivement, c'est vraiment déroulé en deux temps, où on a eu une première partie où, il faut quand même se le dire, on était un peu dans les cordes après une année 2018 assez difficile. On a démarré l'année avec un poids action qui était plutôt proche des 25%, qui était relativement faible par rapport à notre historique, qui a progressivement monté au fur et à mesure que nous avions des résultats d'entreprise qui étaient très corrects, qui avaient également des perspectives qui étaient très correctes sur les 6 mois à quasiment l'année qui allait arriver devant elle. Et nous avons pris confiance au fur et à mesure en augmentant le poids de la poche croissance qui était moins représentée en début d'année que ce qu'elle n'est en fin d'année.
Et donc, quel est le poids maintenant de cette poche action?
Alors, cette poche action, aujourd'hui, elle est quasiment à 35% et toujours avec une représentation majoritaire de valeurs de croissance, comme cela a été le cas depuis maintenant le mois de juillet, deuxième partie de l'année 2019.
Bon, donc tu as précisé un peu, c'est vrai que la croissance a beaucoup aidé. Finalement, cette stratégie se traduit par un très bon résultat, hein, puisque 2/3 de la performance, encore une fois, du échiquier arctique sur l'année 2019 provient de cette sélection action. Sur les obligations, comment est composée cette poche obligataire? Tu l'as dit en introduction, il y a un peu plus d'hybrides, il y a un peu plus de convertibles. Quelle est la répartition, en fait, en termes de catégories obligataires?
Alors, effectivement, le choix a été porté de vouloir faire, de façon assez naturelle, une diversification sur toutes les poches obligataires possibles. La raison étant que sur des obligations investment grade à 3 à 4 ans de maturité, nous étions proches des zéros de rendement. Et donc, l'intérêt de porter ce type de papier dans le portefeuille était relativement limité. On a donc fait le choix de se reporter sur des obligations corporate hybrides, des obligations convertibles en début d'année. Un exemple très frappant qu'on a déjà utilisé à plusieurs reprises, c'est que nous avions en début d'année des obligations Engie, maturité 5 ans, avec un rendement proche de 0,5-0,6%. Et on pouvait le faire passer directement en obligation convertible. Donc en équivalent, on avait du Deutsche Post, maturité équivalente et seniorité équivalente, avec quasiment 50 points de base de rendement supplémentaire. On a donc fait le choix de faire bouger une partie de cette poche obligation classique en obligation convertible pour augmenter le rendement facial de cette poche obligataire. Le rendement a été plutôt assez positif parce qu'en fin d'année, nous avons une performance sur les obligations convertibles de l'ordre de 6%, alors que les obligations classiques sont plutôt proches des 5%, ce qui est une performance très honorable, mais cette diversification a permis d'apporter un plus de performance tout au long de l'année 2019. Et si on va encore plus loin, on a également décidé d'augmenter le poids des obligations hybrides, qui sont finalement des obligations investment grade en grande majorité, donc plutôt des obligations liées aux entreprises, et qui ont un rendement plutôt entre 1,5 jusqu'à 3% et qui vont apporter un boost de performance. Le gros avantage, c'est que dans un contexte de marché où les taux sont relativement bas et où la volatilité est assez contenue, on a pu arriver à en sortir une performance très satisfaisante puisque en cette fin d'année, nous pouvons constater une performance de 11% sur les obligations hybrides qui composent le portefeuille, avec un poids moyen de l'ordre de 11% également.
Et si on regarde sur la partie obligations traditionnelles aujourd'hui, que représente la poche investment grade et que représente la poche yield ou non notée en fait?
Alors la poche investment grade est toujours composée, on a environ 2/3 d'investment grade sur cette poche obligataire.
D'accord, hors hybride ou avec les hybrides?
Avec les hybrides.
Avec les hybrides.
Avec les hybrides, sachant que les hybrides sont très souvent investment grade.
Oui, je comprends, mais donc on a 2/3 toujours sur des notations investment grade et...
Et ben le reste, c'est environ 18% sur du high yield et puis le solde, c'est du non noté.
D'accord. Et toujours donc là aussi en totale synergie avec les expertises qui existent au sein de l'équipe de gestion de la financière de l'échiquier.
Alors effectivement, c'est un excellent point, c'est que Échiquier Arty, son objectif, c'est de réunir les meilleures compétences de la financière de l'échiquier pour construire un portefeuille multiclasse d'actifs.
Mais et malgré tout, simple et transparent. Hein.
Simple et transparent, qui permet finalement d'attraper différents styles de gestion, donc tant sur les actions que sur les classes d'actifs obligataires, et qui permet aujourd'hui de construire une performance qui sera la plus constructive possible, c'est-à-dire sur lequel on va essayer d'avoir le moins de volatilité sur une période qui peut être parfois compliquée, comme on a eu le cas au fur et à mesure de l'année, avec différents événements qui ont ponctué la vie du fonds.
Bon, on reviendra un peu sur la situation de cette poche obligataire sur ce début d'année et comment on se projette sur 2020 dans quelques minutes. En attendant, j'aimerais bien aussi parler des couvertures, parce que ça a toujours été un outil à intégrer finalement à la gestion d'Échiquier Arty, hein, cette capacité à prendre des couvertures. Est-ce que ces couvertures ont été payantes cette année et quelles ont été les principales couvertures sélectionnées par l'équipe de gestion?
Alors on a mis en place deux types de couvertures. Le premier type de couverture, c'est effectivement sur cette poche taux obligataire, où on a toujours eu cette volonté depuis quelques années à ne pas prendre un biais sur les obligations gouvernementales. Et en se positionnant, en disant que finalement, on avait plus intérêt à avoir une duration faible dans le portefeuille, qui est aujourd'hui de l'ordre de 2,2 points, comparé à une duration naturelle qui serait plutôt de l'ordre de 3. Et on a mis en place cette stratégie de couverture tout au long de l'année, qui a eu pour conséquence un coût de l'ordre de 50 points de base tout au long de l'année.
D'accord, donc finalement ça n'a pas été une couverture.
Ça n'a pas été une
stratégie
gagnante.
Ça a permis de réduire la volatilité finalement du portefeuille, je pense, mais ça n'a pas été une stratégie gagnante en tant que telle.
Alors ceci dit, au sortir de l'été 2019 où on avait touché le point le plus bas jamais vu sur le Bund allemand à 0,77, cette stratégie de couverture a été particulièrement profitable puisque nous sommes arrivés à moins 0,18 en fin d'année. Cette stratégie a quand même largement porté ses fruits pour, comme tu le disais, diminuer la volatilité et apporter une performance supplémentaire au cours de la dernière partie de l'année 2019.
Alors, tu le faisais remarquer, hein, malgré finalement un début d'année 2019, on pouvait se dire que le risque était très asymétrique sur le côté obligataire, avec potentiellement peu, je dirais, de performance à tirer de cette poche obligataire. La performance à la fin de l'année de cette poche obligataire, elle est proche de 5%.
Absolument.
Est-ce qu'elle est liée, c'est une question qu'on nous pose souvent, donc je me permets de la répéter, est-ce que cette performance a été liée à la baisse du spread, en fait, hein, donc tu pourras peut-être expliquer ce que c'est, la baisse donc de la prime de risque qui est demandée par les investisseurs pour porter des obligations d'entreprise, ou est-ce qu'elle est liée à la baisse des taux?
Alors, elle est principalement liée à la baisse des spreads. Parce que si on regarde effectivement des indices, un indice communément appelé le crossover, qui nous sert de base de référence pour justement calculer ce spread de crédit, cette prime de risque sur les obligations d'entreprise, on l'a établi à 375 points de base en début d'année 2019 pour quasiment finir l'année à 200 points de base. Donc on peut vraiment dire que la baisse des spreads a été le principal moteur de performance des obligations tout au long de l'année 2019. Elle s'est fait pas vraiment en façon linéaire, parce qu'on a eu des chocs, deux ou trois chocs, pas d'une violence extrême, mais qui ont été quand même assez significatifs tout au long de l'année. Mais si on le regarde effectivement dans le temps, c'est particulièrement cette contraction des primes de risque qui a été le principal driver de performance obligataire.
Alors parlons de 2020 maintenant, et je pense que c'est une très bonne liaison finalement, hein, on va rester sur la poche obligataire. C'est comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour performer sur une poche obligataire, alors que le crossover semble être relativement bas et que, on le sait, les taux sont bas. Quels ont été les choix qui sont faits aujourd'hui, ou quels sont les choix qui ont été faits par l'équipe de gestion pour aborder cette année 2020 en termes de stratégie obligataire? Est-ce que le poids, quel est le poids de cette poche obligataire aujourd'hui?
Proche de 60%, 60-65%.
Il
est fort probable qu'on continue un petit peu dans ce qui a été fait à partir de la fin d'année 2019, où on va aller plus loin encore dans la stratégie de diversification avec des obligations convertibles, des obligations hybrides. Il y a effectivement un marché qui est extrêmement actif sur des obligations hybrides et également sur les obligations corporelles depuis le début de l'année. Là, on l'a noté aujourd'hui d'ailleurs, on a la plus grosse journée jamais vue depuis mai 2017 sur les obligations en règle générale en Europe.
De quoi? De volume
ou d'émission? En termes de volume, le volume n'a jamais été aussi élevé aujourd'hui que depuis le mois de mai 2017. Donc il y a effectivement un appétit de la part des divers fonds dans le marché, parce qu'il y a une demande qui est extrêmement forte, mais il y a également beaucoup d'offres, ce qui est plutôt assez positif, puisque finalement, avec les spreads, certes, qui sont assez bas, mais avec un retour et une demande qui est assez élevée, on peut quand même arriver à générer de la performance, alors peut-être pas sur très long terme, mais au moins en arbitrage, de façon assez ponctuelle, il est possible d'arriver à créer de la performance sur cette partie obligataire.
Donc tu nous le dis, de nouveaux sous-jacents, enfin pas forcément des nouveaux sous-jacents, mais plus de ces sous-jacents, je dirais, qui ne sont pas des obligations d'entreprise traditionnelles, qui peuvent être des obligations hybrides ou des obligations convertibles. La duration, quel est le choix qui est fait? Tu nous as parlé d'une duration aujourd'hui qui est de l'ordre de 2,2, donc une duration relativement courte.
Elle restera sur ces niveaux. Au moins sur le prochain trimestre, compte tenu des différents éléments que l'on a et qui ressortent des différentes banques centrales, et même de notre scénario macroéconomique qui est de dire que les taux ont plutôt une tendance à s'améliorer et à remonter progressivement au cours de l'année. Ça sera peut-être pas dans des proportions très importantes, mais au moins cela justifie une duration assez courte dans le portefeuille, telle que l'on a fait depuis maintenant de nombreux mois.
Bon, qui a pour avantage de réduire la volatilité, en fait.
Et qui a également surtout pour avantage de réduire la volatilité.
Ça me permet de revenir peut-être très rapidement sur 2019 pour parler de volatilité. On a parlé au début de notre discussion de ce budget de volatilité du fonds qui est autour de 5. Quelle a été la volatilité, en fait, des d'Échiquier Arty en 2019?
3,7.
Ouais, donc une volatilité très faible.
Assez contenue. Et puis, finalement, un max drawdown qui a été assez limité puisque... certes, il y a eu des à-coups au cours de l'année 2019, mais à chaque fois plutôt bien rattrapé. Et le max drawdown a été 2,2%.
D'accord. Alors la question qu'on me pose souvent, c'est pourquoi pas prendre un peu plus de risques finalement? Bon, on a insisté sur le côté une duration faible, c'est moins de volatilité, mais pourquoi pas aller plus loin encore dans cette politique d'investissement finalement sur ces produits hybrides, enfin ces obligations hybrides, hein, ce ne sont pas des produits, ce sont des obligations hybrides.
Absolument.
Ou les obligations convertibles. Jusqu'où on pourrait aller, en fait?
Alors, tu l'as rappelé en début, effectivement, Arty, c'est un 0,50 action. Mmh. Aujourd'hui, on est quasiment à 35% sur des actions. On a également une poche obligation convertible qui est un peu plus sensible au profil action, aujourd'hui, donc qui rajoute un petit poids supplémentaire sur une exposition risquée. Et puis également, ces obligations hybrides, qui sont quand même un petit peu plus volatiles que des obligations classiques, compte tenu de leur profil qui est considéré entre des actions et des obligations. Mmh. Et donc, indirectement, nous sommes assez proches de profil de risque maximum de 50%, compte tenu de l'environnement de marché qui est quand même relativement propice depuis maintenant quelques mois.
D'accord. Alors, l'expo action, 35%. Les stratégies qui sont privilégiées sur ce début d'année, est-ce qu'on reste toujours avec ce biais croissance que tu as évoqué sur 2019?
Alors, on va rester sur ce biais croissance, mais on a commencé à réaliser quelques arbitrages, notamment sur les très belles performances qui ont été réalisées au cours de l'année 2019. On a un très bel exemple, notamment sur Nestlé, qui est quand même une valeur considérée comme du staples, donc
croissance visible,
récurrente, très mondiale, très internationale. La performance réalisée de Nestlé au cours de l'année 2019, c'est quasiment 40%. Mmh. C'était un des premiers poids du fonds et des premières convictions du fonds Échiquier Arthis dans la poche action. Et on a fait le choix d'en sortir complètement en début d'année pour peut-être un peu plus se repositionner sur des valeurs value très en retard et qui peuvent déceler quelques potentiels assez intéressants, au moins sur les quelques mois à venir. Donc on a commencé à faire ce type de changement. Type de changement également lorsque l'on a décidé de sortir nos Vivendi, qui ont également réalisé une très belle performance avec après le deal qui a été fait avec Tencent, et puis aller un petit peu plus loin sur des valeurs qui nous paraissent à profil de risque assez attractif, c'est-à-dire croissance visible, où on a quelque chose devant nous, mais qui n'a pas encore donné tout son potentiel. Et on a notamment en stock une valeur qui a été rentrée au cours du quatrième trimestre, qui est Temenos, qui est une des valeurs conviction d'Échiquier Major, qui a également fait son apparition dans le portefeuille. Donc plusieurs nouvelles idées, plusieurs changements qui ont été faits en début d'année, environ 6 à 7 valeurs, donc pas tout à fait 20% du portefeuille qui a évolué, au moins sur la poche action. Sur la poche obligataire, c'est plus mesuré, parce que pour l'instant, il n'y a pas eu énormément de changements en termes de conviction, mais il est fort probable qu'au cours du mois de janvier, il y ait quelques modifications qui soient faites, notamment sur la poche obligation convertible, voire même un peu hybride.
D'accord. Alors sur les actions, on en a parlé, il y a quand même une nouveauté, je dirais, en 2019 aussi, c'est l'arrivée au sein de la sélection actions de la poche d'Arthis, d'actions internationales. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, en fait? Quels sont les titres, par exemple, que vous avez aujourd'hui sur ce début d'année?
Alors, l'idée de départ, c'était de se positionner en se disant qu'il manquait quelque chose à Échiquier Arthis pour diversifier son portefeuille. Notre zone de jeu, c'est l'Europe, mais nous n'avions pas toutes les valeurs pour pouvoir composer un portefeuille qui soit le plus tout-terrain possible. Si on regarde un peu dans le détail, on a des valeurs comme Microsoft, Amazon, Alibaba, sont des valeurs internationales, ce n'ont pas que des valeurs américaines, parce que c'est des valeurs qui sont vraiment considérées comme étant autant positionnées aux États-Unis qu'en Europe qu'en Asie. Ce sont des valeurs qui ont finalement des volatilités assez limitées et qui ont surtout des profils de croissance qui sont bien au-delà de ce que l'on pourrait avoir en équivalent, au moins sur l'Europe. Un très bon exemple, c'est Microsoft. Quand on voit les taux de croissance qui sont affichés par le cloud sur Microsoft, Microsoft Azure, qui sont quasiment à 65% par trimestre, on n'a malheureusement pas d'équivalent européen pour jouer sur ce type de valeur-là. C'est une des principales raisons pour lesquelles nous sommes arrivés à la conclusion qu'il fallait diversifier notre portefeuille action sur ces valeurs internationales.
Est-ce que c'est une diversification qu'on pourrait mettre en place sur le portefeuille obligataire?
Plus difficile parce que finalement, en termes de rendement, un rendement sur une obligation de Microsoft n'apporterait pas un plus majeur en termes de performance sur la partie obligataire. Et l'idée n'est pas non plus de faire une diversification sur les devises. L'idée est de clairement rester sur un portefeuille obligataire euro, avec des arbitrages possibles entre classes d'actifs. Mais nous préférons avoir une exposition devise plutôt via des actions qui sont de l'ordre de 8 valeurs aujourd'hui sur la devise américaine, et il n'a pas vraiment vocation à aller très au-delà. Ça restera relativement contenu autour de 8 à 10 valeurs.
Le risque devise est-il couvert?
En partie, pas en totalité.
D'accord. Alors, j'ai une question là qui arrive, en fait, qui question assez traditionnelle, en fait, qu'on reçoit régulièrement, c'est pour 2020, quel est l'intérêt d'avoir un fonds diversifié dans son allocation, en fait?
Alors, c'est plutôt l'intérêt d'avoir Arthis. Pourquoi avoir Arthis?
Pourquoi, allez, résumons, réduisons la question. Pourquoi avoir Arthis?
Alors, pourquoi avoir Arthis? Parce que c'est un fonds qui présente une multiclasse d'actifs assez innovant, avec ces multiples expertises internes et maisons qui sont représentées au sein des obligations convertibles, des obligations hybrides, mais surtout et également des différents styles de gestion qui sont représentés en interne, et qui ne vont pas forcément s'allumer en même temps en termes de performance. Un très bon exemple, ça a été sorti de l'été 2019, la croissance était un peu en panne, et c'est vraiment le value qui est plutôt reparti. Le fait d'avoir un portefeuille relativement équilibré, Alors certes, on dit un petit peu plus croissance que value, mais le fait d'avoir eu ce portefeuille équilibré nous a permis finalement de continuer à alimenter la performance au cours du quatrième trimestre 2019, chose qui n'était pas forcément si évidente lorsque l'on avait fini le mois d'août qui était quand même relativement difficile en termes de volatilité et de performance. Et donc tout cet intérêt, c'est cette diversification, c'est ces différents modes de couverture sur la duration, mode de couverture également sur la poche action. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais effectivement, à 5 reprises au cours de l'année 2019, nous avons mis en place une stratégie de couverture.
Alors, sur la poche action.
Sur la poche action. Dans un premier temps, ça s'est fait sur le DAX, qui était le plus lié finalement aux atermoiements de Monsieur Trump, le retour récurrent de la guerre commerciale, des différents points d'achoppement entre les différentes grandes zones géographiques. Et finalement, ça a plutôt servi à contenir la volatilité. Ça n'a pas été un driver de performance, mais nous ne cherchons pas à avoir de la performance par la couverture, nous cherchons plutôt à limiter la volatilité et à pouvoir faire des arbitrages, le cas échéant, lorsque l'on a atteint des points bas sur les marchés actions.
D'accord, je pense que c'est bien compris. Bon, peut-être pour conclure, répéter que Arty est le fonds diversifié La Financière de l'Échiquier, que c'est une formule qui est extrêmement simple et transparente, en fait. Il n'y a pas de...
Pas d'obligation d'État, on reste sur des produits simples.
À la limite, ce serait simple, mais il n'y a pas de
dérivés
de matières premières, il
n'y
a pas de dérivés de crédit, il n'y a pas de position spéculative sur des devises, non. etc. etc. Quand on regarde en fait un rapport d'Échiquier Arty, je pense que toute la performance du fonds s'auto-explique en fait à travers ce que l'on sait de la performance action et de la performance obligataire. C'est la réunion aujourd'hui de toutes les expertises de La Financière de l'Échiquier, un temps sur les actions, puisque c'est une poche qui est composée à partir des fonds emblématiques de la maison, que vous connaissez tous. Même chose sur les obligations, puisque finalement, on bénéficie à plein de l'existence d'un fonds d'obligations hybrides au sein de notre gamme, d'un fonds de crédit européen, de nos fonds d'obligations convertibles aussi. Donc, on réunit et vous panachez, en fait, vous, l'équipe de gestion d'Arty, tout en travaillant aussi sur ces stratégies, mais vous panachez finalement tous ces savoir-faire pour faire un produit, ou du moins pour offrir une solution avec une volatilité qui est contrôlée. On l'a vu d'ailleurs, extrêmement faible, hein, finalement, puisque si je calcule le Sharpe ratio de l'année 2019, il est absolument extraordinaire, hein, quasiment 10% de performance avec 3,5% de volatilité. C'est un Sharpe ratio qui est assez extraordinaire. Et puis, tout en ayant, grâce à cette politique de couverture, je pense, une vraie volonté. Alors, parfois, ça marche, parfois, ça marche moins bien. On s'en est rendu compte un peu en 2018, je dirais, mais de limiter le drawdown, en fait, de ce fonds. Et plus que jamais, pour des clients qui sont averses au risque, qui sont averses à la volatilité, il nous semble que ça reste toujours une très bonne solution d'investissement. Guillaume, je pense qu'on est arrivé à la fin de cet entretien. Je te remercie encore
Merci
une
Pierre.
Fois d'avoir
Merci à vous tous.
Aussi bien représenté toute l'équipe de gestion d'Échiquier Arty. Merci à tous ceux qui nous écoutent et puis à très bientôt, hein, puisque comme vous le savez, c'est maintenant un rendez-vous qui est installé mensuellement, qui est ce point en fait avec un des membres de l'équipe de gestion pour pouvoir décrypter, décortiquer aussi un peu les différentes stratégies qui sont que l'on vous offre et qu'on est très heureux de vous voir acheter. Merci à tous, à bientôt.
Merci à tous.